Les nuits de France Culture. De nouveau, bonsoir Ernest Pignon-Ernest.
Bonsoir Alban.
Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Ernest Pignon-Ernest, c'est Louis Sclavis que nous venons d'entendre. Clarinettiste, saxophoniste, compositeur. Avec lui se terminait la première partie de votre nuit rêvée. C'était en 2002, à propos de ses compositions rassemblées sous le titre Napoli's Waltz, composition inspirée par vos collages sur les murs de Naples. Quelle place occupe la musique dans votre vie quotidienne ?
C'est pas au quotidien en fait. Non, il peut passer vraiment des journées sans que j'écoute de la musique. Par contre, certains moments, c'est déterminant. Vous voyez, puisque vous faisiez allusion à Naples, je suis allé travailler à Naples grâce à la musique, grâce à une émission de Philippe Herson. Vraiment, après un travail qui m'avait amené à m'interroger sur ce que je fais, j'avais fait ce constat qu'il me fallait mieux connaître. Le fait de ne pas avoir de formation religieuse, travaillant les images, m'a semblé un handicap. Et il m'a fallu approfondir ça, les relations avec les grands mythes. Et je me demandais où menait un travail de cet ordre. Et là, j'écoute une émission de Philippe Herson. Est-ce que c'est culture ou musique? Je sais plus.
Musique, je pense.
France Musique. Et c'était la musique sur Naples. Et dans la même émission, c'était incroyable. C'était Cimarosa, Pergolèse, Gesualdo. Gesualdo, ça m'a sidéré. Parce que je me suis même demandé, vous voyez à quel point j'ai pas une grande culture musicale. Je me suis poser la question si c'était pas une musique contemporaine très sophistiquée, vous voyez, un truc comme ça. Et donc cette richesse là, j'ai été vraiment subjugué. Et au milieu de tout ça, il a envoyé des chansons comme Sol e Mio, les plus belles chansons populaires du monde, quoi, vraiment. Et donc je suis simplement parti de ça. Dans la nuit, je me suis dit au fond, une ville qui a sécrété des choses aussi complexes, aussi riches et aussi populaires, comme j'ai la chance d'être assez libre, je suis parti dans les jours suivants à Naples. Voilà, c'est la musique m'a mené à Naples.
Et justement, c'est avec Éducation sentimentale avec Eri De Luca, le premier des fragments napolitains proposés par Anne-Sophie Vergne en 2004, que s'ouvrira la deuxième partie du programme d'archives de votre nuit rêvée, Ernest Pignon-Ernest. Vous m'avez dit qu'en entendant le napolitain Eri De Luca parler de sa ville dans cette émission, vous avez retrouvé Naples telle que vous-même l'avez reçue.
Oui, la façon dont Eri De Luca en parle, avec cette gravité, cette sensualité, on dirait qu'il va la chercher dans le tuf, dans les pierres même de Naples, vraiment. Et il y a chez lui, oh, ça m'est difficile de parler, Eri De Luca m'impressionne beaucoup. Vous avez son dernier roman est extraordinaire, là, Impossible. Comme dans les romans de Naples, Monte di Dio, ou le dernier, il interroge le temps, l'histoire, vous voyez. Là, dans le dernier qui vient de sortir, il interroge notre siècle, les gens de ma génération, avec une puissance, une rigueur. C'est bouleversant. Il est interrogé par un juge, et ça, c'est un peu la continuation, on dit ça, de son précédent roman, où il invente un fils. Vous voyez, il y a tout ça dans chez lui. Comment parler de Eri De Luca? C'est vraiment la référence. Moi, pour le travail que j'ai fait sur Naples m'a amené à lire, d'après une jeune femme qui fait une thèse sur mon travail napolitain, 92 livres sur Naples. Donc j'ai tout lu de Virgile, de l'Énéide à Eri De Luca. Et Eri De Luca, c'est le ouais, j'aimerais que ce que j'ai fait sur Naples soit l'équivalent de ce qu'il a fait dans son œuvre, quoi. Vous voyez, je piétine un peu là, je sais pas très bien comment le dire. J'interroge l'histoire, parce que Naples, à un moment dans ma vie, je me suis dit peut-être je ne vais plus travailler qu'à Naples. Parce que à Naples, on peut interroger 2000 ans d'histoire. Vous voyez, le lac d'Averne, donc Virgile. Et il y a tous les thèmes qui font notre histoire, grec, romain, chrétien. Et en même temps, les problèmes contemporains, ils sont les plus aigus. Vous voyez, quand Francesco Rosi veut parler de problèmes fonciers, de logements et tout, il fait main basse sur la ville à Naples. À Naples, actuellement, à l'église des Carminés, il y a des ex-voto, ce sont des seringues. C'est les mères qui mettent des ex-voto seringues pour que leurs enfants décrochent. Vous voyez ce que je veux dire? Naples, c'est une ville où on... C'est la seule qui reste comme ça. Voilà.
Vous souvenez-vous de la toute première émotion que vous avez ressentie au tout premier contact avec Naples ?
Oui. Quand je suis arrivé, j'ai cru que j'étais arrivé un jour exceptionnel. Vraiment. J'ai appelé ma compagne. J'ai dit, il a dû se passer quelque chose. C'est un bordel partout, les klaxons, la circulation. Je lui dis, il doit y avoir ou une grève générale, ou il y a eu un accident grave, ou une chose comme ça. Et après, je me suis rendu compte que ce désordre, c'était une permanence. Et qu'en fait, c'était pas aussi désordonné que ça.
Vous présentez le travail que vous avez mené à Naples comme une quête au long cours de ce qui fonde votre culture et votre sensibilité méditerranéenne. Qu'avez-vous trouvé à Naples de ce qui fonde cette sensibilité, cette culture méditerranéenne, Ernest Pignon-Ernest ?
Il y a que à Naples, les choses ne disparaissent pas. J'ai collé des images sur un mur. Le soubassement est grec. Au-dessus, c'est des briques romaines. Et c'est les Espagnols qui l'ont construit au début du XVIIIe siècle. Vous voyez, il y a ça à Naples. Tout est là, toujours présent. Les choses ne disparaissent pas. Ce sont des strates vivantes.
Vous dites que vous avez trouvé la ville pour votre travail.
Oui, complètement, parce que partout où j'ai collé, j'ai eu des problèmes, vous voyez, d'arrestation, pas grave, parce qu'il ne faut pas en faire des histoires. J'étais arrêté plusieurs fois dans Paris pour coller. Même quand j'ai collé Rimbaud, j'étais arrêté deux fois dans la même nuit. Mais bon, on est dans un pays démocratique, ça fait perdre deux heures. Quelquefois, ils sont un peu désagréables. Mais à Naples, presque, on me remerciait de mettre des images, vous voyez. Je vous dis une anecdote, j'ai collé une image avec une échelle, parce que je voulais qu'elle soit très haute sur un mur rouge, très beau, qui faisait référence à la Villa des Mystères de Pompéi, à cause de cette couleur-là. Et je collais une image, des gens ont dû appeler la police en croyant que c'était des voleurs à Naples. Et il arrivait trois flics qui me voient coller, ils me font signe de continuer, trois mecs en jean, t-shirt, beaux mecs, comme ça. Et puis quand j'ai fini, je salue. Ils m'applaudissent, ils mettent leur revolver, ils avaient le revolver, ils mettent le revolver dans la ceinture, ils m'applaudissent, et quand je descends, je vous assure, le flic me dit, c'est une citation d'Artémisia que tu colles, là, vous voyez. Et ben, à Naples, on vit là-dedans, avec des gens qui vivent avec leurs 2000 ans d'histoire présente. Ils vous parlent, vous croyez que vous allez rencontrer Virgile au coin de la rue. Et il y a des gens comme ça, Roberto De Simone qui dirige le San Carlo, et comme ça, j'ai rencontré ce type. On dirait qu'il a connu Caravage, vous voyez, je vous dis.
Commencé en 1988, quelles ont été les différentes étapes de votre parcours napolitain sous l'égide du Caravage, des peintres baroques et de Pasolini ?
C'est-à-dire que j'ai rectifié chaque fois mon regard, parce que on a du mal à comprendre cette vigne. Il y a une permanence. Je me suis tourné, pas tout de suite, j'aurais dû le faire dès le premier jour, vers Caravage, parce que cette ville, elle est à la fois la ville la plus ensoleillée d'Europe et la plus sombre, vous voyez. Je veux dire, au XVIIe siècle, c'est la plus grande ville d'Europe. Il y a des immeubles qui dépassent 22 mètres de haut, les rues étroites. Et donc, il y a en permanence cette lutte entre la lumière et les ténèbres qu'on retrouve, bien entendu, vous me voyez venir, vous voyez, chez Caravage. Et avec cette, à la fois, la sensualité de la ville, les draps aux fenêtres, les poissons, les gens, les femmes dans la rue, et l'idée de la mort tout le temps. Vous voyez, je veux dire que c'est comme si elle était présente tout le temps. Cette menace permanente que représente le Vésuve est essentielle, je crois, vraiment. Même dans la mentalité des gens. Je sais que une amie qui arrive à la gare qui demande à des gamins de prendre la valise, ils lui répondent « Aujourd'hui, j'ai déjà mangé ». Vous voyez, implicitement, ça veut dire demain, peut-être, on est enlevé. J'avais rencontré le responsable du Vésuve, enfin, les vulcanologues. Il m'avait dit, vous savez, s'il y a une éruption, le premier jour, 800 000 morts, automatique, vous voyez. Et je crois que les gens vivent avec ça, ce qui leur donne cette relation à la mort et ce désir de vie, vous voyez. Des chansons napolitaines, c'est ça, quoi.
Votre histoire avec Naples s'est ensuite prolongée à Scampia, le quartier des voiles, ce quartier pauvre de la banlieue napolitaine où régnait la Camorra. C'était avec ses tornos, si je reviens, cette image de Pasolini portant son propre cadavre.
Oui, mais ça c'est-à-dire que cette image de Pasolini que j'ai esquissée tout à l'heure, je l'ai collée dans des lieux qui avaient une résonance avec sa vie, sa mort, son œuvre poétique ou cinématographique, hein, vraiment. Je travaille beaucoup l'élaboration de mes images, je les charge de beaucoup de sens, de référence plastique, symbolique et tout ça. Mais en même temps, je sais que avec le collage, je vais encore travailler ce sens. Vous voyez, selon où je les mets, je suis allé à Matera les coller. Parce que c'est une référence, c'est là qu'il a tourné l'évangile selon saint Matthieu, vous voyez. Et je n'avais pas trouvé l'équivalent des lieux que l'on voit dans Mama Rome ou dans Acatone, de lieux de marginalité, de pauvreté, d'extrême pauvreté. Voilà, il n'existe plus à Rome. La ville a changé, c'est un peu embourgeoisé, tant mieux. Il y a eu une évolution près de la prison justement de Bibibia. Il y a plus tout ça. Et je me suis dit, le lieu pasolinien d'aujourd'hui, c'est Scampia. C'est à cause des films et de Gomorra, vous voyez, voilà. Et donc, j'ai voulu aller coller là. En effet.
Et ça a été pour vous l'occasion d'une rencontre avec un photographe,
oui.
Davide Cerullo.
Oui. Ouais, un photographe, c'est peu dire. C'est peu dire, photographe. C'est Davide Cerullo. C'est un type absolument incroyable qui a 11 frères et sœurs passés en prison. Le père et la mère passés en prison. Lui-même aussi passé en prison. Et en prison, là, je vous fais un résumé parce que en prison, il se rend compte. Tu sais, si j'ai commis des crimes, c'est pas parce que je suis de Scampia, c'est parce que j'étais inculte, que je n'avais pas la parole, je n'avais pas la poésie, voyez. Et donc, il est revenu dans le quartier persuadé qu'il va sortir les enfants de la délinquance par la culture et la poésie, par la poésie vraiment, par la poésie. Oui, c'est une rencontre absolument extraordinaire. Je sais plus, vous avez peut-être pu faire publier un livre de ses photos et de ses textes. Voilà.
Oui, Visage de Scampia, les justes de Gomorra, dont Éric de Luca a signé la préface et auquel Christian Bobin et vous-même avez donné des textes. Mais que nous disent ces visages? Que nous disent ces visages de Scampia, Ernest Pignon-Ernest?
Le contraire de ce que dit Gomorra. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup cet écrivain napolitain. Je trouve qu'il s'est trop complu dans la misère, la violence. Il y a à Scampia des signes d'espoir, de culture, de beauté. Vous voyez, il a peint une image qui est, je crois, fausse. J'ai plus confiance dans les gens. Et ce que fait Davide sur place en témoigne.
N'avez-vous pas été un temps méfiant à l'égard de la photographie, Ernest Pignon-Ernest?
Oui. Mais là, les photos de David, c'est tout à fait autre chose. C'est à cause c'est à propos de mon travail même que je me méfiais des photos. Si vous voulez, mon travail a une singularité, j'espère qu'il y en a d'autres, c'est que il n'est pas pensé, pour un travail graphique, plastique, il n'est pas pensé cadré. Vous voyez? C'est-à-dire que j'inscris mes images dans le mouvement de la ville, dans le temps et dans les lieux. Et donc, faire des photos, ça obligeait à cadrer les choses. Et je trouvais que c'était en contradiction avec mon travail. Parce que l'inscription dans la ville compte beaucoup. Vous voyez? Je veux dire, mes images, prennent en compte le fait que quand on partage la ville, on partage de l'espace, mais on partage aussi du temps, de l'histoire, du symbolique, vous voyez.
Dans les temps que nous traversons aujourd'hui, Naples est une sorte de symbole de résistance humaine. C'est vous qui dites cela, Ernest Pignon-Ernest. C'est quoi cette résistance de Naples?
C'est une résistance culturelle. Je suis un peu inquiet là, quand même. Je suis un peu inquiet parce que mon dernier voyage m'a montré des failles, un recul anthropologique presque de la ville. Il y a quelques années, quand je collais les images, même les Napolitains les plus démunis étaient conscients des 2000 ans d'histoire qu'ils avaient, vraiment. Moi, des petits voleurs que j'ai rencontrés la nuit, vraiment des voleurs, m'ont dit « viens voir » et ils m'ont montré chez eux qu'au bas d'un soubassement dans leur maison, il y avait un reste grec ou romain. Vous voyez, ils étaient fiers de cette assise de leur ville. Et là, j'ai l'impression que ça se dilue un peu. J'ai vu des dégradations qui n'existaient pas il y a quelques années, quoi. Des graphes imbéciles sur le palais San Severo, l'église Santa Chiara où Pasolini a tourné le Decameron complètement graffé, de trucs nuls. Du coup, j'ai été amené à râler contre les gens qui interviennent dans la rue. Et le maire de Naples m'a appelé en me demandant si je pourrais répéter ça. Voilà. Parce qu'en effet, il me dit, mais vous savez, ils se réclament de vous. Certains se réclament de mon travail, mais moi je n'ai rien dégradé, j'ai un grand respect pour la ville. D'abord, j'ai renoncé au début de notre entretien, je parlais de l'intervention au plateau d'Albion, j'ai commencé avec des pochoirs. J'ai renoncé aux pochoirs. D'abord, je faisais des pochoirs, c'est souvent un peu binaire, un peu pauvre. Encore que maintenant, il y a des types, il y a C215, Jeff Aerosol, qui font des pochoirs qui ont une vibration, qui ont une sensibilité. Moi, je n'aimais pas ça. J'ai tellement besoin d'investir dans l'image, dans le dessin, de référence à la peinture, à l'histoire et tout, que j'ai besoin du dessin, quoi. Vous voyez, donc je suis revenu au papier, à la sérigraphie, au dessin. On y a fait allusion tout à l'heure à propos de Rimbaud. La fragilité de mes images, leur mort annoncée, c'est un des éléments suggestifs de ma proposition. Vous voyez, c'est pas une conséquence. C'est pas. Je sais que quand les gens voient mes images, ils se disent pas. Mais implicitement, on sent qu'elles vont disparaître. Et cette mort fait partie de ma proposition. Surtout pour mes travaux napolitains qui interrogent ça, qui interrogent le temps.
Entendre les dernières minutes de Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini. Que représente pour vous Pier Paolo Pasolini, dont vous dites qu'il a toujours été un repère? Quel repère?
Oui, c'est vrai, c'est le mot. C'est un repère parce qu'il interroge dans toutes ses œuvres en permanence l'histoire et l'histoire de l'art, si vous voulez. C'est le cas dans Mamma Roma. Il appréhende des problèmes très contemporains puisque c'est l'histoire d'un gamin, de son emploi, du logement de sa mère avec Anna Magnani et tout ça. Il fait résonner l'histoire, vous voyez. Je veux dire, on pense à Mantegna et tout ça. Et il y a tout le temps ça chez lui. C'est-à-dire une approche très pragmatique, très charnelle, très sensuelle des lieux et des gens. Et en même temps, presque paradoxalement, c'est ça qui en affirme la dimension sacrée tout le temps. Et il y a ça tout le temps dans son œuvre. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait ça dans la mienne. Oui, c'est un peu cette dimension-là.
Mais justement, Ernest Pignot-Ernest, ce sens du sacré que l'on ressent dans le regard de Pasolini, et certainement aussi dans le vôtre, ne serait-ce pas le point de jonction avec lui?
Oh oui, complètement. Oui, oui, vraiment. J'ai été très touché parce que René de Secati, qui est l'homme en France qui connaît, et peut-être au monde, qui connaît le mieux l'œuvre de Pasolini, cite mes images dans son dernier livre, qui est sur l'image du Christ dans l'œuvre de Pasolini. Voilà, j'étais très, très touché, très ému, vraiment. Ça m'a ému qu'il y fasse référence, hein, vraiment. Parce qu'au fond, c'est ça, quoi, vraiment. C'est ce rapport au temps, ce rapport aux politiques. Pasolini, il est le 20e siècle de l'Italie, toutes les contradictions. Son père est fasciste, son frère est tué par des communistes, fusillé par des communistes. Lui-même, il est au Parti communiste, mais il en est exclu. Vous voyez, il a 700 procès. Il nous annonce, si on lit les écrits corsaires, il nous annonce ce qu'amène cette forme de capitalisme de consumériste. Il voit venir cette dégradation de la société. Il dit que la télévision va faire plus de mal à la culture italienne que n'a fait le fascisme. Et c'est vrai. Vous savez, il écrit avant Berlusconi. Mais on croit que, si on lit, on croit qu'il a anticipé tout ça. Et l'image que j'ai faite, c'est un peu comme s'il nous disait, qu'est-ce que vous avez fait de ma mort, quoi. Comme s'il arrivait avec ça, en disant, mais voilà, je vous avais, c'est la Sibylle.
Dans cette deuxième partie de Nuit, nous entendrons un numéro de Poésie sur parole de 1988 qu'André Velter consacrait à Christian Bobin. Christian Bobin et André Velter, avec ces deux-là, dans une même émission, Ernest Pignon-Ernest, vous faites d'une pierre deux coups.
Absolument, mais je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès parce que j'écoutais cette émission qui était importante. J'ai découvert la plupart des poètes de ma génération grâce à cette émission d'André Velter que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et donc, quand vous m'avez fait cette proposition, je me suis dit, je vais en choisir une, et j'ai choisi celle de Bobin, parce que, en effet, je l'ai entendue, et depuis, d'abord, j'ai la chance de connaître un peu Bobin, et c'était symbolique, quoi. Vous voyez, je voulais qu'il y ait à la fois, comme vous l'avez dit, et Velter et Bobin.
Qu'est-ce qui vous rapproche de Christian Bobin? Vous, le voyageur, l'homme qui colle ses images dans le monde entier, et lui qui n'a guère quitté sa région du Creusot et qui ne semble voyager que dans l'écriture.
Mais il voyage vraiment, quoi. Vraiment, je me demande. Il y a une authenticité, une beauté, une quête du sacré. Je n'ai pas la foi qu'il a, mais il a une foi multiple, quoi. Il a une foi. Il a la foi de tous, quoi. Il a la foi des athées. Voilà, on peut dire ça. Une espèce de fraternité. C'est son œuvre. Il a traversé des périodes. On a traversé des périodes, aussi bien l'écriture que les arts plastiques ont été normatés par des modes appauvrissantes, normatives et tout ça. Et lui est en dehors de tout ça. Il a traversé avec une espèce d'évidence. Son œuvre porte une conscience et une évidence de l'amour, quoi. C'était extraordinaire, puisque nous avons parlé de David tout à l'heure, à Naples. Donc David qui sort de prison et qui va essayer de sortir les enfants de la délinquance, il m'amène chez lui et je vois toute l'œuvre de Christian Bobin, vous voyez. D'abord, je ne savais pas que Bobin était traduit, mais chez ce type qui sort de prison, c'était vraiment... incroyable, quoi. Et pour lui, c'est quand je lui dis, mais tu sais, je vais pas appeler Bobin, il disait Bobine, Christian Bobine. C'était comme si j'avais appelé, je sais pas, Dante, ou voilà. Il était ému et tout ça, vraiment.
Et André Velter, à quand remonte votre amitié avec lui?
Ça vient de la peinture, je crois. Nous avons des amis communs, nous avions des amis communs, c'est à travers eux qu'on s'est rencontrés. Antonio Saura, le peintre espagnol, André a écrit sur Saura, et sur Velikovic, le peintre yougoslave qui est mort l'année dernière. Ouais, je crois que c'est dans ces zones-là que nous nous sommes rencontrés, mais je l'avais lu avant, bien sûr, mais je le connaissais pas personnellement, voilà.
Et André Velter, c'est en quelque sorte votre compagnon de publication. Vous avez signé ensemble un très grand nombre de livres.
Une vingtaine. On a deux, trois projets en cours. On a des idées incroyables. Je peux même pas vous les dire.
Les deux derniers étant, si je ne me trompe pas, Pour l'amour de l'amour, figure de l'extase, en 2015, et en 2017, Ceux de la poésie vécue.
Oui, oui, oui.
Comment travaillez-vous ensemble sur ces deux livres, par exemple?
Oui. Ben, là, il se trouve que j'ai travaillé l'exposition. Je viens d'exposer. L'exposition s'est terminée il y a quelques jours à Avignon. J'ai fait un immense travail à partir des textes des grandes mystiques chrétiennes de Thérèse d'Avila, Hildegarde, Marie de l'Incarnation, tout ça. Donc j'ai travaillé 3-4 ans à essayer de faire des dessins qui naîtraient de ce qu'elles ont dit. Vous voyez, ce sont toutes des grandes mystiques qui ont écrit, hein. Je n'ai travaillé que sur celles qui ont écrit. Et André, passant dans mon atelier, j'ai découvert d'abord qu'il connaissait lui aussi ses textes. il les avait moins travaillés que moi, parce que moi j'ai tout lu. Et peu à peu, comme ça, quand j'ai fait l'exposition, on en a parlé chez Gallimard, parce qu'il a fait une grosse monographie sur mon travail chez Gallimard, et ils nous ont proposé d'en faire un livre, même deux livres d'ailleurs, il y a deux livres sur Extase. Un qui s'appelle Extase, l'autre qui s'appelle Pour l'amour de l'amour, qui est une phrase de Madame Guyon. Quand apprendra-t-on à faire l'amour à l'amour même? Et donc, André a écrit ces très beaux textes et qui accompagnent mes dessins. Donc, on a composé ces livres en choisissant des dessins préparatoires qui montrent comment mes images s'élaborent, comment je tâtonne, combien je doute, on échange. Et pour les poètes, c'est la même chose. Un jour, il a constaté qu'en effet, voyez, on aurait pu faire 20, non, mais on avait 19 poètes en commun. Et il avait des textes, il a écrit des textes spécialement pour cet
ouvrage. Ceux de la poésie vécue.
Voilà, ceux de la poésie vécue, oui, oui, oui.
J'ai découvert en préparant cette émission la place très importante qu'a tenue à une époque le théâtre dans votre vie. Et vous dites même que c'est du côté du théâtre plutôt que de celui des arts plastiques que s'est faite votre formation. Mmh. Ernest Pignon-Ernest.
Oui, je crois que dans ce que je fais, il y a un rapport au temps qui a plus de choses en commun avec le théâtre qu'avec la peinture, si vous voulez. Hein, la façon dont ça s'inscrit dans un temps. Oui, je n'ai une formation de rien. Hein, vous voyez, je suis complètement autodidacte. Donc, moi, Picasso, je l'ai découvert dans Paris Match quand j'avais 12 ans. Hein, vraiment, vraiment. J'ai pendant quelques années plus pratiqué le théâtre, peut-être parce que je sens bien la pratique collective. Ça vient peut-être de là, non, de l'écriture. J'ai commencé, ouais, à lire le théâtre. Ouais, excusez-moi, je sais pas. Je suis étonné par votre question, mais elle est juste. Elle est juste. C'est vrai. Pendant plusieurs années, j'ai fait encore plusieurs scénographies. Là, il y a 2 ans, j'ai fait une scénographie au Bolchoï, à Moscou. Voilà.
Ce qu'on sait moins, tout ça, on en parle moins.
Ouais, oui, c'est vrai. Je pourrais peut-être. Oui, j'ai fait quelques grandes scénographies. Oui.
Et tout autre sujet, d'où vous vient l'amour du vélo, Ernest Pignon-Ernest? J'ai vu des photos de vous sur les pentes du Mont Ventoux, c'est du sérieux, la machine comme celui qui appuie sur les pédales d'ailleurs. Oui. Le cyclisme, parce que c'est une passion d'enfance pour vous, les grands tours, oui. Les grands champions, le maillot jaune, le maillot rose.
Oui, j'ai dans mon atelier une photo dédicacée par Louise Embobet. Oui. Vous savez, j'avais pas rêvé d'être peintre, j'ai rêvé d'être footballeur ou coureur cycliste. Hein. Vraiment, oui. J'étais pas assez bon dans l'un et dans l'autre. Et puis j'ai la chance, vous voyez, à mon âge, je continue à travailler parce que j'ai choisi la peinture. Si j'avais choisi le vélo, je serais pas chez vous. Mais je sais qu'on va écouter Philippe Bordas. Et peu de gens parlent du vélo comme il arrive à le faire, en faisant des références à Saint-Simon, à Rimbaud, à la Commune de Paris. Il m'impressionne beaucoup. J'avais écouté cette émission le soir là, de Weinstein. C'était incroyable. Ce type m'a sidéré. Et son livre, le livre qu'il annonce au cours de cette émission, est prodigieux. Alors, quand même, le vélo suscite beaucoup d'épopées. Vous savez, il faut lire, hein, les écrivains, peut-être, vous les avez probablement reçus, des gens comme Fournel ou Chambaz. Ont une écriture formidable. Mordillat.
Fotorino.
Absolument. Le vélo est un sujet épique. Vraiment, il y a une grande mythologie. Et là, Philippe Bordas, le cours de cette émission m'a sidéré. Quoi.
Oui, une émission de 2008.
Voilà. Ouais. C'est d'une beauté, d'une écriture. J'ose pas, après lui,
Mais pourquoi
c'est métaphysique, il y a une dimension comme ça, c'est l'assomption.
Et pourquoi le vélo inspire-t-il à ce point les écrivains, bien plus que le football par exemple?
Il y a une espèce de violence, moi j'ai eu beaucoup d'idées à vélo, vous savez.
Vous dites ça irrigue la tête.
J'ai dit ça, j'ai eu beaucoup d'idées à vélo. Paul Fournel m'a dit un jour, tu sais moi je fais 80 km, quand je rentre j'ai ma nouvelle. Lui qui écrit des nouvelles, je crois qu'il les fait avec une sortie de vélo. Mordillat aussi, je veux dire, il y a quelque chose d'intense qui se passe dans le corps. Faire le Ventoux, c'est une... Moi, j'ai pas les mots. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'interrogez sur les mots. J'ai pas les mots pour exprimer ce que ça dit. Il y a des images. Il y a des images de Tom Simpson, qui est mort en 1967 en montant le Ventoux. C'est le Golgotha. Vous savez, on sort de la forêt quand on monte le Ventoux. On sort de la forêt. Il reste 7 kilomètres dans un désert de caillasses blanches. On dirait qu'on est sur une autre planète. Et quand on est bien, c'est une chose que je n'ai ressenti que là. Il y a un rapport avec la nature, l'espace, presque le cosmos et notre corps qui est exceptionnel. Mais voilà, les gens qui vont écouter Philippe Bordas. Et lui, en plus, c'est la grâce, quoi.
Avez-vous déjà pensé à coller des images de Bartali, de Coppi, d'Anquetil et Poulidor sur un flanc de montagne dans la montée du Puy-de-Dôme ou du Tourmalet ou du Ventoux?
Non. Vous savez, les images, c'est très compliqué. Je ne peux pas faire quelqu'un à vélo parce qu'il faut que ce soit à la fois juste et faux. Une espèce de réalisme et de distance. C'est très brechtien, mes images. On ne peut pas faire quelqu'un qui marche. Il faut qu'il marche, mais qu'il soit arrêté. Vous voyez, je veux dire, mon image de Pasolini qui porte son corps, il ne porte pas le corps de façon juste. Si vous portez le corps d'un type dans les bras, il ne peut pas être dans... Alors que mon dessin a l'air très réaliste, il est faux. C'est le signe de l'homme qui porte son corps. Ce sont des signes, vous voyez. Je crois pas que je pourrais faire ça. Par contre, j'ai refait toute l'école puisque vous parliez de Bartali. Bartali gagne le Tour de France en 48. Et j'ai refait toute l'école du Tour de France 48 en m'appuyant sur un livre de Louis Nucera.
Je vais vous dévoiler aujourd'hui une de mes plus importantes collections. Il s'agit d'œuvres d'art d'un type nouveau que je désigne sous le vocable de slip chiffon. Je suis l'inventeur du slip chiffon et sans doute un des premiers artistes à avoir pris conscience de sa valeur comme œuvre d'art. On appelle slip chiffon tout vêtement de corps qui, ayant perdu sa fonction, se trouve recyclé en chiffon à peindre. Le vocable slip chiffon est un terme générique qui inclut divers vêtements de corps, gilets de peau, caleçons, chemises de nuit, rideaux de fenêtre, qui n'est pas un vêtement de corps, bien sûr, encore que. Mais le slip est idéal car il comporte trois orifices qui permettent de le poser sur le dossier d'une chaise et favorisent son utilisation pour essuyer les pinceaux.
Que venons-nous d'entendre, Ernest Pignon-Ernest? Qui venons-nous
Cueco.
D'entendre?
On vient d'entendre Cueco. Cueco, c'est la plus grande rencontre professionnelle et amicale de ma vie, à part ma compagne. Vraiment, c'était un homme exceptionnel. J'ai eu la chance de faire 100 débats avec lui, d'exposer avec lui à Pékin, au Palais des Beaux-Arts de Pékin. C'était un homme qui conjuguait l'invention, la sensibilité, l'humour. Un grand dessinateur, un grand peintre et à la fois un grand écrivain. Il faut lire ses textes sur Cézanne où il mélange et conjugue à la fois l'écriture et le dessin, ou sur Delacroix. C'était une personnalité absolument exceptionnelle que vous avez eu la chance à France Culture de voir hanter les couloirs. C'était une invention permanente. J'ai fait 100 débats avec lui, il arrivait à me surprendre chaque fois. D'humour, d'acuité, de... Et puis d'exigence.
Vous vouliez le faire entendre aux auditeurs, dans votre nuit.
Ah oui, absolument, absolument. Mais il faudrait que ce soit l'ouverture pour que ça leur suggère d'aller lire ses ouvrages. Voilà, il a écrit des livres incroyables. Le volcan est un livre exceptionnel. Comment grossir sans se priver aussi. Il a des livres d'une drôlerie, puis d'autres d'une acuité et d'une culture exceptionnelle, vraiment.
C'est avec le testament de la Pintade que se terminera le programme de votre nuit rêvée, Les chemins de la connaissance, Cécile Amcy, en 1987. Qu'est-ce que cette histoire de Pintade et qui était Jean-Marie Lamblard, disparu en 2018, que l'on entendra dans cette émission, Ernest Pignon-Ernest?
C'était aussi une grande rencontre et puis ça me fait revenir à ce que vous avez esquissé tout à l'heure, c'est mon rapport au théâtre. J'ai travaillé dans les années de 68 à 72 avec André Benedetto. Quand je me suis installé dans le Vaucluse, j'ai passé par hasard dans son théâtre. Il venait d'écrire et de monter Napalm. Je venais de voir V comme Vietnam de Armand Gatti et j'étais vraiment subjugué par son spectacle, vraiment, par la dimension poétique, la force. On parlait tout à l'heure d'art engagé, vous voyez, il parlait de la guerre du Vietnam, mais ce qui était essentiel, c'était la dimension poétique. Et en même temps, c'est une prise aiguë sur la réalité du moment. Donc, j'ai travaillé avec lui. Nous avions avec ma compagne monté une de ses pièces à Nice. Il est venu la voir et il a proposé à Yvette, ma compagne, de jouer Zone Rouge avec lui, qui a été la pièce du festival d'Avignon 68. Zone Rouge, ça a été la pièce qui a été... Voilà, voilà. Et dans la compagnie de Benedetto, il y avait Jean-Marie Lamblin. Jean-Marie Lamblin, c'est un personnage exceptionnel. Vous savez, cette émission que vous passez, elle est le fruit d'un truc, je vous dis l'anecdote. J'ai parlé de lui au cours d'un repas, en racontant son histoire. Et le lendemain, donc quelqu'un de France Culture m'a appelé en me disant, écoute, hier soir, il m'a soupçonné d'être méditerranéen, d'en rajouter. Il m'a dit, mais vraiment, le type dont tu parles, il est vraiment comme ça? J'ai dit, mais oui, j'ai rien rajouté. Donc, Jean-Marie Lamblard, donc, je l'ai connu. Il était paysan. Il avait un élevage de pintades. Il avait le certificat d'études, il avait été apprenti boulanger. Pendant la guerre d'Algérie, il a trouvé, dans la ferme dans laquelle il travaillait, il a trouvé un livre sur les pintades. Quand il est retourné chez lui, dans le Gard, il est à Tavel, mais il avait malheureusement pas de vigne, parce que Tavel, c'est la grande ville du Rosé. Il a créé l'élevage de pintades. Il a créé un élevage de pintades, le premier. Il a créé une coopérative familiale d'élevage de pintades. Il s'est mis à étudier les pintades. Il en a fixé les races. Il a traqué toutes les pintades dans le monde. Et il a trouvé donc des mosaïques d'il y a 3000 ans en Syrie. Il a découvert... il m'a interrogé sur Carpaccio, le martyr de Saint-Ursule à Venise. Il y a une pintade. Chercher pourquoi il y a une pintade dans le martyr. C'est que Sainte Ursule est martyrisée avec 10 000 vierges. Et les points blancs sur la robe des pintades s'appellent des perles. Et la pintade est là pour symboliser. Et la pintade, dans beaucoup d'annonciations, elle est là entre, elle fait le passage entre le divin et l'humain. Où elle est. Quelquefois c'est une colombe, quelquefois c'est une pintade. Donc, Jean-Marie qui est, et paysan du Gard devient un jour, il devient un docteur en ethnozoologie, admiré par Yoyotte qui ne va plus en Égypte sans Jean-Marie Lamblard. Je veux dire, c'est un parcours absolument exceptionnel. Il a fixé des races, donné leurs noms, et ça l'a amené à travailler sur les métamorphoses d'Ovide, toutes les grandes mythologies du Moyen-Orient et tout ça. C'est un parcours exceptionnel.
Et dans cette émission, on entendra aussi Colette Magny qui a créé un spectacle musical, Kevork ou le Délidérance, inspiré par les pintades de Jean-Marie Lamblard.
C'est lui qui nous a tous amenés sur les pintades. Voilà. C'est au moment où Colette Magny est venue dans le théâtre en 68, s'est fait son affiche en 68. Voilà. J'étais un peu le spécialiste de ce genre d'affiche.
Et vous avez signé vous-même la préface du livre de Jean-Marie Lamblard, L'oiseau nègre, l'aventure des pintades dionysiaques.
Oui. En effet, oui. Dans cette préface, je raconte tout ce parcours incroyable, parce que pour gagner sa vie, après, il a créé un festival multiculturel à Martigues, puis il est devenu inspecteur des théâtres au ministère de la Culture. C'est un parcours invraisemblable. Et puis, on l'a vu à la Sorbonne, devenir docteur en ethnogéologie, quoi. C'est une beauté de vie, quoi. C'est un destin. Un destin.
Merci Ernest Pignot-Ernest. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 3 heures, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Fragments napolitains, Éducation sentimentale avec Eri De Luca, le premier des 4 proposés par Anne-Sophie Vergne dans Surpris par la nuit en 2004, Philippe Bordas pour son livre Forcené au micro d'Alain Weinstein dans Du jour au lendemain en 2008, le premier temps de la série de poésie sur parole qu'André Velter consacrait à Christian Bobin en 1988. Et enfin, Les chemins de la connaissance, le testament de la pintade, troisième partie, la pintade, déesse des rivières et de l'amour, par Cécile Amcy en 1987. Ernest Pignot-Ernest, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.